Franc Norin, dernier texte du Guide du bon sens, éloge de Monsieur de la Palice. Il n'y a pas de vérité si évidente que l'on doive se dispenser de les énoncer, que l'on prenne garde au contraire que, sous prétexte de leur évidence, et par crainte de sembler ridicule en les énonçant, on ne finisse par les oublier et par oublier qu'elles sont des vérités. C'est affaire au bon sens de remettre les vérités premières à leur place, qui doit précisément être la première. Aussi bien, qu'est-ce qu'une vérité évidente? Tu peux très bien considérer comme évident ce qui me semble à moi matière à réflexion et à controverse, de même que tous les spécialistes, traitant de leur spécialité, ont tendance à poser comme acquises des notions dont tu n'avais jamais entendu parler et auxquelles tu ne comprends en goutte. Parce que personne ne saurait établir et décider pour tout le monde où commence l'évidence, le mieux est de commencer par le commencement, c'est-à-dire de ne jamais hésiter à tout expliquer comme si personne ne savait rien et comme si rien n'était évident. Sur ce point, nous répéterons que l'exemple de M. de la Palice nous a toujours semblé le plus significatif, et j'ai toujours déploré que des personnes raisonnables, sensées et pondérées se laissassent aller à se gausser d'une chanson qui, au moins dans ses premiers couplets, est un modèle de bon sens. Tandis que, tant que, si on n'élevait jamais un monument au bon sens, je demande si on n'y devrait pas faire figurer d'abord l'effigie du héros de la chanson, dresser en pied la statue de Monsieur de la Palice. Un guide du bon sens serait incomplet où l'on aurait négligé d'insérer un bref commentaire des principaux couplets de la chanson de Monsieur de la Palice. Chacun de ces couplets ne se contente en point, comme on le prétend bien à la légère, d'enregistrer ce qui va sans dire, mais précisément ce qui a toujours besoin d'être dit, qui est par excellence le langage du bon sens. Et ce sera d'abord touchant, l'air du fameux de la Palice, cette invitation pleine de modestie et de gentillesse. Il pourra vous réjouir pour peu qu'il vous divertisse, mais n'y a-t-il pas là tout un programme d'esthétique? Le premier soin pour un poète comique et par conséquent pour un chansonnier, c'est de nous divertir en effet, c'est-à-dire de nous arracher à nos soucis, occupations et préoccupations, et c'est pour y tâcher qu'il nous met un refrain aux lèvres. Et des lèvres, le refrain gagnera-t-il notre esprit? Notre cœur y fera-t-il couler cette joie todifiante et saine, par quoi l'esprit et le cœur sont plus seulement divertis, mais réjouis? Se divertir est une chose, se réjouir en est une autre, et la joie est le but qu'il s'agit d'atteindre par le chemin d'un divertissement. Quel est donc ce la palice sur lequel on compte pour nous apporter divertissement et joie? De quel trait de son caractère va-t-on nous divertir et du moins, l'espère-t-on, nous réjouir? Et l'on nous apprend que, n'ayant reçu que peu de biens en partage, il ne manqua de rien dès qu'il fut dans l'abondance. Sans préjuger, s'il vous plaira, paraîtra très drôle, divertissant ni réjouissant, que voilà un contentement exemplaire. Tant de gens que l'abondance même ne saurait satisfaire, et qui, de quelque bien qu'ils soient pourvus, témoignent d'un tel désordre ou d'une telle mauvaise volonté, qu'ils semblent, à les voir ou à les en croire, être toujours dépourvus de tout. Et croyez-vous aussi qu'il soit si commun d'en user avec certaines modes, comme Monsieur de la Palice? Il ne mettait son chapeau qu'il ne se couvrit la tête. À la bonne heure! Voilà du bon sens! Quand la majorité des porteurs de chapeaux, du moins parmi les contemporains de Monsieur de la Palice, mettaient leur chapeau sous leurs bras, qu'il ait des guerres façon, où en conviendra de se couvrir la tête. Et n'est-ce pas à quoi, cependant, sont essentiellement destinés les chapeaux? Vérité oubliée non seulement par les contemporains de notre héros, mais par nos propres contemporains, qui pour la plupart négligent d'avoir des chapeaux, et singulièrement par nos contemporains qui, en mettant leur chapeau, ne songent guère, comme Monsieur de la Palice, à se couvrir la tête, mais à peine la moitié de leur jolie tête, là, sur le côté, à peine le quart. Un autre exemple excellent qui nous est donné par M. de la Palice et qui intéresse mieux que la façon de porter son chapeau, celle de se comporter dans la vie, c'est comment à l'occasion il prenait sur soi, il arrivait à se maîtriser. Il n'entrait guère en courroux, si ce n'est donc la colère. Écoute celui-là dont rien n'autorise à dire ni ne justifie qu'il soit dans la colère et qui jure et qui invective constamment sans savoir pourquoi. Que fera-t-il davantage quand il sera en colère pour tout de bon et pour une raison qu'il en vaudra la peine? Monsieur de la Palice nous enseigne la vanité, le danger des éclats disproportionnés, des colères inutiles. Personne n'eut-il jamais mieux que lui le sens de la mesure, le sens de l'opportunité. Et c'est son sens de l'opportunité qui le gardera du ridicule où l'on voit tomber tant de gens qui, par leurs accoutrements, leurs agissements aussi extravagants les uns que les autres, par la folie indécente de leur mise et de leur conduite, semblent avoir choisi de vivre dans un perpétuel carnaval. Il faisait son mardi gras toujours la veille des cendres. L'extravagance, la fausse originalité, M. de la Palice la poursuit partout, et toutes les manières. Et comme il entend mener une existence saine, il entend aussi ne manger qu'une cuisine saine, et recommande à ses valets de ne pas oublier les œufs, surtout dans les omelettes. Je ne pense pas que vous soyez disposé à sourire de cette recommandation, ni à la trouver superflue. Par ces temps de cuisine chimique, où l'on se pique de faire des omelettes sans œufs, où l'on mettra de tout, sauf des œufs dans les omelettes. Et de même qu'il lui faut une cuisine saine et des omelettes faites avec des œufs, M. de la Palice ne supporte pas les vins frelatés et n'hésite pas à se proclamer fervent amateur du bon et pur jus de la treille. De l'inventeur du raisin, il révérait la mémoire, et pour bien goûter le vin, jugeait qu'il en fallait boire. Ceci à l'adresse de ces petits messieurs à l'estomac détraqué, et qui discutent des mérites du pommard et du chambertin en buvant de l'eau minérale. Non, monsieur de la Palice, qui s'en flatte et qui en est fier, et qui a bien raison d'en être fier, Monsieur de la Palice n'a pas l'estomac détraqué, le cerveau non plus et le cœur encore moins. Et n'est-ce pas merveille de voir avec quel souci de l'équilibre toute sa vie est sagement organisée, y compris sa vie sentimentale? Vous ne doutez pas qu'un homme de bon sens comme Monsieur de la Palice ne fuit en tous les drames et les complications, et notamment dans l'amour, qui lui paraît une chose parfaitement normale et simple comme tout le reste, à condition de ne le chercher que là où il est, où il doit être dans le mariage. S'il avait vécu garçon, il n'aurait pas eu de femme. Mais cela n'empêchera pas d'avoir, comme tout le monde, ses heures de tristesse. Mais ce sera encore, dirons-nous, une tristesse raisonnable, qui aura ses bonnes raisons et non pas de ces tristesses qui éclatent à tout propos et hors de propos, inconsidérées, incompréhensibles. Elle, que l'on ne sache jamais, avec ces tristesses-là, sur quel pied danser. Mais danse-t-elle jamais, ni par quel bout les prendre. Mais je n'ai pas besoin d'insister sur ce mal du siècle, particulièrement redouté et traqué par tous les hommes de bon sens, et qui s'appelle la neurasthénie. Monsieur de la Palice, homme de bon sens par excellence, était par excellence le contraire d'un neurasthénique. Et qui donc aurait su, sinon lui, ne jamais être chagrin qu'au moment qu'il était triste? Mais comment un tel homme n'est-il pas été jalousé? On a beau ne pas faire de bruit, vivre dans son petit coin, sans rien demander à personne, que de vous laisser paisiblement édifier un bonheur tranquille, ces mêmes gens, qui ne se contenteraient pas de la vie que vous menez, ne peuvent vous la laisser mener sans intervenir pour y mettre leur grain de sel, sans se mêler de ce qui ne les regarde pas, sans regarder par-dessus votre mur, par-dessus votre épaule, bref, sans s'occuper de vous dans le même temps que vous évitez le plus de vous occuper d'eux. Ah ! Être seul au monde, ou du moins pouvoir agir, rêver, parler, se taire, aller, venir, comme si l'on était seul au monde. Il n'eût pas son pareil s'il eût été seul au monde. Faut-il croire que M. de la Palisse se consolait de n'être pas seul au monde en composant des vers? Que M. de la Palisse ait été un poète, ceci n'étonnera que ceux qui se représentent l'inspiration comme surgissant nécessairement au milieu des flammes d'un volcan et sur le trépied de la Pythonisse. Ceux qui méconnaissent l'intime douceur d'une poésie familière et mesurée, telle que pouvait être, sans rien qui interdit qu'elle le fût, la poésie de M. de la Palisse. Et nous avons même cette précision sur la technique poétique de M. de la Palisse et la façon dont il s'appliquait qu'à écrire des vers. Quand il écrivait des vers, il n'écrivait pas en prose. Règle trop oubliée. Qui osera soutenir que ce soit là une vérité évidente et qu'il ne soit pas opportun, voire indispensable, de la placer ainsi sous les yeux de tant de poètes ou prétendus poètes qui ne distinguent plus ou dont on ne distingue plus s'ils écrivent des vers ou de la prose et qui ne se piquent que nous offrir de l'une et des autres un horrible, un inextricable et incompréhensible mélange. Monsieur de la Palisse échappe aux influences des faux maîtres, des snobs. Il vit et compose à l'égard de toutes les coteries et chapelles littéraires et autres sociétés d'admiration mutuelle. Il écrit, s'il lui plaît d'écrire, comme ça lui chante, quand ça lui chante et ce qui lui chante, libre et tranquille dans sa maison des champs. Lorsqu'en sa maison des champs, il vivait libre et tranquille, on aurait perdu son temps à le chercher en ville. À la ville, c'est-à-dire dans les cafés, les salons de la ville. Quelle plaisante demeure apparaît cette maison des champs de M. de la Palisse, où l'accueil devait être si cordial et si confortable d'hospitalité. Car M. de la Palisse est un homme généreux et charmant, qui ne cherche pas à jeter de la poudre aux yeux de ce qu'il reçoit. Mais chez qui l'on est toujours assuré de toutes les prévenances et des attentions les plus délicates, où rien ne manque de l'utile et de l'agréable, où M. de la Palisse s'évertue et n'épargne rien pour que tu le sentes à l'aise et que tu aies toutes tes aises avec qui tu sois chez lui comme chez toi, mieux que chez toi. Il faut ce qu'il faut. Telle, en pareil cas, sera sa devise. Quand il se mettait en frais, il se mettait en dépenses. Voilà bien le type même de l'honnête homme, lettré, courtois, sachant recevoir et m'en voyager, car ce portrait serait incomplet si l'on ne soulignait, parmi l'emploi judicieux qu'il faisait de sa fortune, que M. de la Palisse voyageait volontiers. Mais ici encore, on ne manquera pas d'admirer cet esprit sensé et pondéré dont il témoignera en voyage, comme dans toutes les autres circonstances de son existence si harmonieuse et si bien réglée. M. de la Palisse n'est pas de ces fous qui ne voyagent que pour voyager, atteint d'une sorte de frénésie des départs, partir encore, partir toujours, partir à peine arrivé, ou mieux, il arrive, semble-t-il, que pour avoir l'occasion de repartir. Incapable de jouir d'un paysage, de s'arrêter aux beautés d'une ville, tantôt ici, tantôt là, partout à la fois. Certes, l'eau, M. de la Palisse n'est pas de cette école de voyageurs et n'a pas semblable bougeotte. Il voyage posément, à petite journée, sans songer à brûler les étapes et profitant de chacune d'elles. Quand il était à Poitiers, il n'était pas à Vendôme. Un honnête homme, M. de la Palisse, dans toutes les acceptions du mot, et aussi dans la plus stricte et la plus modeste, qui est de l'honnêteté courante, de l'honnêteté scrupuleuse, de l'honnêteté de l'honnête joueur de piquet, par exemple, qui ne cherche jamais à tricher sur les points. Il comptait 90 lorsqu'il comptait en 90. 90 et jamais 100. Si seulement 91. Cela aussi, qui n'a l'air de rien, sans doute, n'était-il pas mauvais qu'on le remarquât, et tant pis pour qui aura souri de la ma remarque. Mais où personne, suppose-t-on, n'aura l'idée de sourire, c'est quand il est fait allusion à certaines difficultés matérielles de M. de la Palisse et à l'obligation où il se trouve de vendre sa maison. On a cru devoir ajouter à ce propos, il fallait qu'il en eût une. L'observation est judicieuse et se trouvera exactement vérifiée parce qu'il s'agit de l'honnête monsieur de la Palisse. Mais sans doute n'était-il pas mauvais non plus que l'on remarquât, lorsque tant d'audacieux aigrefins, tant d'agents d'affaires aventureux et véreux s'ingénient et s'enrichissent à vendre ce qui ne leur appartient pas, que monsieur de la Palisse mit en vente une maison dont il était réellement le propriétaire. Et c'est ainsi qu'au fur et à mesure que l'on rassemble les traits du caractère de monsieur de la Palisse, se précise davantage et s'épanouit sa figure loyale, l'honnête visage d'un homme qui fait plus que tout au monde, toute duperie et tout faux semblant. Il y a un mot qui n'existait pas du temps de la Palisse, mais si le mot n'existait pas, la chose existait et a toujours existé, c'est le bluff. Monsieur de la Palisse est par-dessus tout l'ennemi du bluff et des bluffeurs. Ce qui établit si joliment, par une image heureuse et frappante, ce couplet de sa chanson, l'un des mieux venus et des plus explicites. On raconte que jamais il ne pouvait se résoudre à charger son pistolet quand il n'avait pas de poudre. Le nombre des forces à bras et des maîtres chanteurs qui n'ont pas de poudre et qui n'attendent pas d'en avoir pour changer leur pistolet, ou s'il revient au même, vous en menacez. Et nous voici arrivés à la blessure qui emporta monsieur de la Palisse. On croit, puisqu'il en est mort, que la plaie était mortelle. On le croit sans en être autrement sûr, car la plaie pouvait très bien n'être pas mortelle, et monsieur de la Palisse en mourir tout de même, faute de soins ou soigné à contresens par un chirurgien malhabile. N'importe, monsieur de la Palisse est mort, et il faut bien dire que cette mort est demeurée liée dans la mémoire des hommes au souvenir même de monsieur de la Palisse, moins pour l'héroïsme avec lequel il la supporta que pour la façon dont elle nous fut rapportée. Regretté de ses soldats, il mourut digne d'envie, et le jour de son trépas fut le dernier de sa vie. Ce dernier trait est apparu comme la plus évidente de ces vérités évidentes auxquelles, à cause de monsieur de la Palisse, on se plaît à donner le nom de la Palissade, et l'on ne s'est pas rendu compte que c'est précisément parce que nous considérons que le jour du trépas est le dernier de la vie que nous nous entêtons à user de raisonnements qui ne sont valables que pour la vie, toutes les fois qu'il s'agirait comme ceci de raisonner de la mort. Le jour du trépas est bien le dernier de la vie, mais c'est autre chose de bien plus angoissant. C'est le début du mystère de la mort qui commence. La première des idées fausses que nous nous faisons sur la mort, et qui suffirait à fausser toutes les autres, c'est que nous n'arrivons pas à l'envisager en soi, toute seule, indépendante de la vie, avec laquelle elle n'a aucun rapport. À toute force, nous voulons la rattacher à la vie, voir en elle un événement de notre vie, le dernier jour de la vie, penser à la vie à travers la mort, que nous ne voyons, que nous ne concevons qu'en fonction d'elle, la vie, toujours elle. Une autre version de la chanson de monsieur de la Palisse, qui, affirment les exégètes, serait à l'origine de tous les couplets dont elle s'enrichit par la suite, est encore, sur ce point essentiel, plus nette et directe et précise, excellemment le soin de son héros. Hélas, il n'était pas mort, il serait encore en vie. On ne saurait mieux dire, et voilà qui coupe court à toutes les confusions détestables où nous pataugeons. C'est tout l'un ou tout l'autre. Et la vie et la mort n'ont pas à se chevaucher l'une l'autre. La mort ne prendra pas la vie en croupe. Chose étrange. Une constatation si raisonnable a-t-elle paru trop raisonnable? Les exégètes dont nous parlions n'ont pas consenti à admettre qu'elle eût été faite de bonne foi. Et l'on s'est avisé d'une interprétation non moins ingénieuse que celle qui, dans l'instant célèbre de Malherbe, soutient que la fille de Dupérier s'appelait Rosette et qu'au lieu de Rose, elle a vécu, C'est Rosette a vécu ce que vivent les roses, qu'avait écrit le poète, trahi de la façon la plus favorable, mais trahi tout de même par son imprimeur. Et pareillement, la chanson disait primitivement que si la Palice n'était pas mort, il ferait encore en vie. C'est possible, mais ne s'aperçoit-on pas que, comme pour la Rosette de Malherbe, le meilleur du vers, sa saveur particulière et son suc profond, viennent de l'erreur commise, si erreur il y eut. On a imaginé, bien au contraire, que dans le cas de M. de la Palice, il lui serait plus agréable de n'être point représenté comme un homme qui passait son temps à mettre les points sur les i, comme si l'on pouvait avoir jamais à regretter d'avoir mis les points sur les i avec ton insistance. Ce que trop souvent il faudra que l'on regrette, n'est-ce pas ? C'est bien plutôt de ne pas les avoir assez mis. Le véritable monsieur de la Palice, I2SE, un Jacques de Chabannes, seigneur de la Palice, ICE, qui se vit tuer bravement à la bataille de Pavie, les seules paroles de lui, authentiques, qui nous aient été transmises, c'est le discours qu'il tint au pied de la forteresse de Rubos, dont il venait 7 heures durant de défendre la première brèche, alors que Gonzalve de Cordoue le menaçait de mort s'il engageait son lieutenant Curnon à livrer le donjon. « Corbon, dit le seigneur de la Palice, Gonzalve que vous voyez, menace de m'ôter la vie si vous ne vous rendez promptement. Mon ami, regardez-moi comme un homme mort, et si vous pouvez tenir jusqu'à l'arrivée du duc de Nemours, faites votre devoir. » Ah, de telles paroles ont sans doute un autre accent que celles qui ont été enregistrées par les couplets de la chanson célèbre, mais nous ne les croyons nullement incompatibles avec elles. Où voyez-vous que Jacques II de Chabannes, le seigneur de la Palice, n'ait pas gardé, jusque dans la fièvre du combat, la même assurance tranquille et réfléchie que M. de la Palice en personne? Et certes, il a fait tout de suite et sans barguigner le sacrifice de sa vie. Mais encore demande-t-il que ce sacrifice ne soit pas inutile. Que dit à Corbon, en effet, que dit-il? Ne vous occupez pas de moi, faites votre devoir. Mais cela, bien entendu, si vous pouvez tenir jusqu'à l'arrivée du duc de Nemours. Cela sous-entend que si Cormon se trouve dans l'impossibilité de tenir jusqu'à ce que Nemours le secoure et le délivre, il fera aussi bien de se rendre aussitôt pour éviter le massacre de ses soldats et la mise à mort immédiate et sans profit du seigneur de la Palice, qui a le bon sens même. Et pourquoi l'héroïsme tiendrait-il pas le langage du bon sens? Les hommes ont plus souvent affaire de bon sens que d'héroïsme. Et c'est pourquoi nous aurons plus souvent à nous inspirer des couplets de la chanson de M. de la Palice que des propos héroïques de son modèle apocryphe ou réel au pied de la forteresse des Rubos. Mais que l'on se dise bien qu'ils sont de même famille et que le véritable héroïsme est celui qui va de pair avec le bon sens. Soyons des héros à l'occasion et des hommes de bon sens le reste du temps. Et même si nous n'avons jamais l'occasion d'être des héros, croyez-vous que le simple exercice du bon sens n'exigera pas de nous plus souvent qu'on ne l'imagine, sinon de l'héroïsme, du moins un certain courage? J'ai écrit ce petit guide du bon sens pour vous y encourager tout précisément, et moi avec vous. Plaçons-le, et nous avec lui, sous les auspices de M. de la Palice. Qu'il soit tout long, Jacques II de Chabannes, seigneur de la Palice, monsieur de la Palice, homme de bon sens et honnête homme, vaut bien qu'on lui tire son chapeau, et ce serait une grande ambition que de pouvoir prendre sa suite. »